Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show sur RMC jusqu'à 18h. Alors dans cette dernière heure, Adrien, on va parler de Cristiano Ronaldo.
Oui.
Qui continue à marquer des buts, même s'il est sur le déclin.
Vous fait-il encore rêver,
voilà. Même Cristiano. Sur le déclin, vous fait-il rêver. Et puis Philippe Spanghero, de la famille Spanghero, nous présente Philippe. Son livre « Au nom du clan ». On avait passé un très bon moment avec Philippe Spanghero.
Et 17h45, le Kikadi, où tout le monde était complètement rôti. Ça peut arriver, mais ça produit de bons moments de Moscato Show.
Allez, tout de suite, on se projette sur la Coupe du Monde 2027 avec Fabien Galthié.
C'est terminé. Large victoire de l'Afrique du Sud ce soir au Stade de France.
C'est terrible parce qu'ils se prennent les mains dans les têtes.
Est-ce qu'on le dit facilement quand on est HPI?
Oui, c'est provocatif. C'est une question provocatrice.
Comment tu expliquerais, comment tu réfléchis à quelqu'un qui ne connaît pas
ça? Je pense qu'ils sont nous. Ils sont plus ce qu'on en a fait que ce qu'ils ont fait de eux.
Tu te noies dans tes pensées, dans tes émotions.
C'est un sentiment de partager l'énergie, sentir, ressentir l'énergie.
Il parle de ces énergivores, ces gens qui vous épuisent votre énergie.
C'est-à-dire qu'il y a toujours un espèce de petit vélo intérieur.
Et qu'en fait, cette vulnérabilité que les gens ressentent en vous, bah, il absorbe.
C'est très juste, Denis.
Les mots se mélangent un peu parfois.
De la compréhension d'être plus, comment dire, dans la justesse du...
C'est très juste, Denis.
Moscato,
c'est très juste, Denis.
Problème.
Quand même.
C'est la journée spéciale rugby avec Midi Olympique. Nous accueillons Pierre-Laurent Gou. Salut.
Monsieur Gou, comment il va?
Bonsoir les gars, ça va bien.
Alors le débat est intéressant, on va se projeter sur le moyen terme. Donc le 15 de France traverse une période de turbulence pour aller jusqu'en 2027 et être champion du monde, c'est le but ultime évidemment. Fabien Galthié, saura-t-il se réinventer selon vous, redonner un souffle nouveau au 15 de France? Comment? Vincent règle le problème tout de suite sur RMC. Le 32-16 pour débattre avec nous. Et Wilfried Templier qui revient de Marcoussi. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Fabien Galthié finalement fait face à sa première vraie crise de résultats.
Disons que si on reprend la flèche du temps, dont on n'a plus trop de nouvelles d'ailleurs, et des 80% de victoires martelées depuis des années, et qu'on se retourne sur cette seule année 2025, les Bleus ont certes gagné 5 matchs, mais ils en ont également perdu 5. Vous avez fait le calcul, ça fait 50% seulement sur l'année civile. Ça va un peu moins bien, et le deuxième ligne, Thibaut Flament, l'avoue sans souci.
Le tournoi 2025, c'était il y a pas si longtemps, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas trop dans la même dynamique. Et du coup, c'est vrai que depuis le début, c'est un peu moyennasse, mais après, je pense que c'est le sport aussi. C'est pas une science exacte. C'est des phases. J'ai confiance dans le groupe. Avec le staff, on bosse beaucoup aussi. On bosse dur. Mais en tout cas, on a à cœur de faire une belle prestation pour, évidemment, pour tous les gens qui nous regardent, mais aussi pour nous en tant que groupe, pour prendre du plaisir tous ensemble et se mettre dans une bonne dynamique pour le tournoi qui est très important pour nous aussi.
Et si, après deux matchs plus que moyens face à l'Afrique du Sud et les Fidji, le prochain tournoi destination se lancer dès samedi face à l'Australie pour laisser une bonne impression, rééquilibrer le bilan et se rassurer avant de retrouver l'Irlande début février. Sachez en tout cas que le sélectionneur Fabien Galthié assure que son équipe travaille et qu'il n'est pas du tout agacé par ce bilan automnal moyen.
Franchement, que ce soit le staff ou les joueurs, ils ont énormément travaillé pendant ces 4 semaines. Donc agacé, non. Au contraire, tout est sujet de travail, tout est sujet de compréhension, de partage et d'alignement. Donc non, au contraire. Je dirais même que c'est dans ce type de moment, c'est-à-dire que quand on n'est pas en réussite totale, que je ressens le plus de motivation, le plus d'implication, le plus d'engagement, le plus d'honnêteté. C'est des moments très très excitants, c'est des moments passionnants à vivre.
Galthié qui a expliqué concernant son animation offensive si efficace lors du dernier tournoi qu'il fallait du temps pour la retrouver, même entre deux compétitions éloignées, et qu'elle allait s'améliorer. C'est ce qu'il nous a dit ce matin. Est-ce ainsi? Mais ceux qui étaient présents à Marcoussi hier ont trouvé le collectif bien plus fluide.
Alors, c'est important, cette dernière phrase. Pour Galthié, après, vous validez ou pas, mais il faut changer régulièrement de plan de jeu, d'attaque, notamment, et que ça met, il a dit, deux compétitions avant de se mettre en place.
Parce que t'es démasqué, c'est ça, en fait. Il expliquait qu'il l'avait testé en Argentine en novembre, l'été l'année dernière encore. Ouais. Ça s'est mis en place en novembre, et ça a été efficace pendant le tournoi.
Ce qui expliquerait, et 6 mois après, évidemment, dans la performance.
Voilà, il faut du travail.
Vincent, est-ce que tu l'imagines toujours capable de se réinventer pour gagner la Coupe du Monde?
La réponse est dans la question. Quand tu as ce poste-là, tu es tout le temps en éternelle réadaptation. Tu ne meurs pas avec un plan de jeu dans ta vie. C'est pas possible. Autrement, tu dégages très rapidement les mecs qui font ça. Enfin, dans ce sport-là, c'est pas possible. Tu es obligé tout le temps de te réadapter, à chercher des combinaisons, à chercher une âme un fond de jeu différent, pas que des combinaisons. Une combinaison, il y en a 40 ou 50 que tu fais. Donc automatiquement, tous les lancements de jeu sont sur combinaison. Donc automatiquement,
c'est pas observé en plus.
Non, mais c'est pas ça. C'est plus profond que ça. C'est plus profond que ça. C'est quel joueur pour jouer ce genre de rugby? Quel joueur dans quel sens? Est-ce qu'on change pas notre philosophie? C'est-à-dire la dépossession, ça c'est un changement. Bon ou pas bon, on aime ou on n'aime pas, mais ça c'est un système de jeu qui change. C'est complètement, est-ce qu'on tient davantage le ballon, est-ce qu'on, au devant on travaille sur des combinaisons différentes qui vont nous faire jouer debout, est-ce qu'on libère rapidement pour jouer sur nos extérieurs. Tout ça c'est une philosophie qu'il faut, c'est une réadaptation, et selon ton adversaire, c'est tout sport. le temps, comme le football américain, en éternelle adaptation, parce que tu repars sur du jeu arrêté. À partir du moment où tu repars sur du jeu arrêté, ça veut dire que les défenses sont placées, et il n'y a rien de pire qu'une défense placée pour abattre. Puisque chaque fois, sur mêlée, la défense, elle est passée. Sur touche, la défense, elle est passée. Donc, on n'est pas dans un jeu de mouvement, comme au football ou tout ça, où tout le monde bouge, tu vois, et que ça, il n'y a pas de lancement de jeu, à part sur une touche. Mais bon, c'est pas ça, ça n'a rien à voir.
C'est pas figé.
Ouais, c'est pas figé. Mais là, t'es obligé. Le football américain, c'est l'exemple type. Mais pour vous, c'est encore plus explicite parce que c'est vraiment arrêté, le football américain. C'est t'as tes bloqueurs qui se mettent là, et là, faut relancer par une combinaison.
Mais au rugby, c'est arrêté, sur une mêlée. Tout
sur une mêlée. Alors après se pose la question que après ça redevient un peu comme le foot, c'est-à-dire qu'une fois que le jeu est lancé, c'est pas le football américain, ça s'arrête pas au bout d'une passe. Là ça rejoue des temps de jeu 2, 3, 4. Alors là c'est ces temps de jeu que tu repenses ton rugby, mais la réinvention elle est totale.
Oui, mais après
lui il est capable de se réinventer par rapport au type qu'il est, dans sa pédagogie, dans sa philosophie,
aussi,
dans le parler,
il faut aussi rapport ce qui a été le cas sur depuis le début de son mandat.
Alors te dire que si c'est le meilleur pour se réadapter par rapport à notre entraîneur, ça je ne le sais pas.
Il ne le sait pas. Mais pourtant, tu le connais très bien.
Oui, ce que je veux te dire, c'est qu'après, tu as aussi toi tes chimères, tes points d'ajustement qui t'ont fabriqué par rapport à ton vécu. Et ça, par rapport à ça, chacun sa personnalité. En ce moment, le mec à la mode, c'est le Sud-Africain.
Erasmus.
Lui, écoute-moi, lui il monte sur la table, il cague, on dit oh, vous avez vu ce qu'il
a fait
techniquement. Regardez-moi cette crotte. Regardez comme elle est belle et assez bon. Bon, mais c'est comme ça. Lui, quand il va commencer à se faire cogner et à perdre des balles, tu vas voir qu'il va être moins à perdre des balles, tu vas être moins à la mode. Parce que lui, il commence à nous gonfler, je te le dis lui. Lui, il fait des raisonnements. Lui fait le chef.
En plus, il a planté
Cornard, il gagne la quart de finale, un point. Demi-finale, un point. C'était pas Cornard quand tu rentres à la maison. Là, tu m'expliques.
Il est champion du monde en 2019 aussi.
Oui. Oui, mais toi, arrête de bader.
Non, mais les deux fois
Jean-Pierre du métro, il l'a planté, ils avaient réservé à 7 ou 8. Jean-Pierre, notre ami qui tient le métro, on l'embrasse, il l'a planté, ils étaient 7 ou 8, cet enfoiré, il a pété.
Côte de bœuf,
un steak tartare. Et là, s'il y allait aujourd'hui, ben nous, on va y aller à sa place et on va boire du Beaujolais.
Si vous comprenez rien à l'anecdote du steak tartare, c'est que les box avaient réservé un établissement dans Paris dans la semaine où ils devaient jouer les Bleus et ils ont planté. Voilà.
Jean-Pierre, au métro, Paris.
Très bien.
Écoute, mon parma.
Denis, est-ce qu'il y a un enjeu
à l'angle
à se réinventer? Est-ce que
la rue qui descend.
Est-ce que Galtier peut, comment dire,
alors,
finir par user ses troupes? Est-ce qu'il va devoir changer quelque chose et quoi?
User ses troupes, j'espère pas. Après, c'est vrai que c'est fragile. Il faut tenir ses hommes, il faut tenir son groupe et pas user le discours. Mais à ce poste-là, tu te réinventes tout le temps. Tu cherches toujours. T'as des convictions, mais tu cherches toujours.
La question, c'est est-ce que c'est lui?
Qu'est-ce qu'il doit changer, qu'est-ce qu'il doit réinventer, Denis?
Réinventer, c'est pas forcément révolutionner tout.
Non, pas du tout.
Réinventer, c'est
changer des faire des ajustements.
On l'a perdu, c'est des champs, ils sortent de ce corps.
Tu prends l'histoire de la dépossession, je suis désolé, il a compris qu'à un moment donné la dépossession avait des limites, il a changé.
Denis, on n'a pas retrouvé notre jeu de tournoi. Il n'y a plus jeu autour du neuf avec les avants d'aller chercher les couloirs.
Dans la période actuelle, on
n'a rien vu.
Non mais attention,
dans la période actuelle, on ne gagne plus. Qu'est-ce qu'il doit changer d'après toi?
Non mais là, on l'a vu, on a gagné d'abord contre les Fidji, mais si tu veux, les Fidji, on a été obligés, malgré nous, de revenir en des jeux de dépossession. Parce que je pense qu'on est fatigué, que le collectif n'est plus le même que pendant le tournoi.
Et parce
qu'il y a du turnover, il y a du turnover, il y a des
bonnes charges. On a perdu deux centres et on a mis Jégo au centre.
Il y a eu deux centres. Moi, je pense que Fabien, si on se projette à deux ans, il faudra qu'il choisisse les hommes au bon poste. Tu l'as dit, Vincent, il ne faut pas se tromper de joueurs.
Ouais. Je pense que c'est ça le plus important pour être champion du monde. C'est mettre les bons joueurs au bon endroit. Mmh. Parce que tout ça n'est pas figé. Il a ouvert son groupe, il a ouvert tu vois aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui arrivent. On voit Calvin Gourgue, qui est remplaçant samedi, qu'on va voir au plus haut niveau.
Il va jouer.
Donc tout ça, et avant, il le faisait pas. Aujourd'hui, il prend des risques, et c'est pour ça que
il est toujours sur la bonne trajectoire.
Oui, je le pense. Oui.
Pierre-Laurent Gou.
Alors, je suis plutôt d'accord avec Vincent. Oh non, mais je comprends.
C'est dans le placard là.
Je comprends tes
interrogations, Pierre, sur Fabien. Parce qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a un premier élément rugbystiquement. Je pense que Fabien, il a pas besoin de se réinventer. C'est peut-être le technicien actuel qui a le plus fort QI de rugby. Pour avoir eu la chance une ou deux fois d'être à côté de lui lors des matchs, il sent les actions mieux que quiconque. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui fourmille d'idées, qui se réinvente continuellement des ses erreurs. Donc, rugbystiquement, il n'y a rien à dire. Okay. Mais Pierre, tu as mis le doigt doucement, mais sûrement, sur est-ce qu'il va sûrement user ses doucement. Non, mais c'est sur son management. C'est-à-dire que c'est depuis le début de sa carrière d'entraîneur que c'est les mêmes défauts qui reviennent, et notamment les semaines d'après défaite, tout ça. C'est parce que c'est quelqu'un qui est très exigeant envers lui-même, mais envers ses troupes. Et il peut être cassant. Et son management peut être cassant. C'est là-dessus où il peut se réinventer.
Je lui ai dit, sur la pédagogie, sur son rapport aux joueurs, là il y a des choses peut-être à changer, parce que c'est pas les mêmes qu'il y avait.
Ça tient pour le moment.
Ça
a tenu, parce que j'ai l'impression au premier mandat, Adrien, que Bernard Laporte, quand il était président, et Laurent Labitte, qui était son premier adjoint, savait aussi le tempérer, il faisait tampon, tout à fait. Et que pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a personne dans son nouveau staff, peut-être un peu William Servin, mais qui est capable un peu de le calmer pour qu'il soit pas si cassant, notamment envers ses joueurs.
Ok, et sur le jeu, tu n'as aucun doute, du coup.
Sur le jeu, j'ai aucun doute. Il n'y a qu'à voir ses équipes, tout ça. Il est capable de se réinventer d'une semaine sur l'autre.
Éric Dimeco.
Écoute, Pierre-Laurent a mis le doigt où il fallait. Et je vais te dire, il n'a pas mis doucement, lui. Donc, non, mais.
Toi, t'as fait la première partie, on veut convaincre.
Ah ouais, non, mais alors, écoute-moi. Question blague de ma chère. Alors, lui, c'est le plus fort. J'étais outré. Alors, donc, pour répondre à la question, non, moi, je pense que s'il y a un coach capable de se réinventer, c'est bien Fabien, parce que d'abord, il a déjà montré en équipe de France, et ensuite, comme Pierre-Laurent le disait, c'est un chercheur du rugby. Alors bon, dans ce sport-là, tu fais une addition juste, tu es chercheur, tu es ingénieur, donc j'ai compris. Donc, mais il n'empêche que il a déjà prouvé que c'était quand même quelqu'un. Alors, on va pas dire qu'il est en avance sur le sur son temps ou sur le reste des équipes, mais par contre voilà, il est pas en retard, et surtout j'ai quand même l'impression que il sait s'adapter et au rugby actuel, au rugby international, et à son équipe. Donc, s'il y en a bien à qui on doit faire confiance, c'est en Fabien Galthié. Moi, je pense que son défaut de management d'homme, là, qu'on pouvait, fait que vous
soulignez,
oui, voilà, vous en avez souvent parlé parce que vous le connaissez bien. Puis voilà, en club, les mecs, tu les as toute la semaine. Là, en sélection, c'est pas pareil. D'abord, il les a pas tout le temps. Ensuite, c'est lui qui les choisit d'un rassemblement sur l'autre. Donc les mecs, il y en a pas qui mouftent. C'est pas comme un mec, tu le fais signer pendant un an, tu te le tapes. Si le mec c'est un boulet, tu es obligé de te le taper. Et si le courant passe pas, l'année peut être longue. Là, c'est au coup par coup. Donc les mecs, quand ils viennent, même dans son management, je pense qu'il y a pas de, gros soucis. En tout cas, il y a moins de soucis qu'un club. Donc pour moi, c'est toujours l'homme de la situation. Et d'après moi, il faut pas tirer d'enseignement de cette tournée de novembre, parce qu'elle est toujours mal placée. Et on se souvient qu'il y a toujours, malheureusement, les mecs sont
de carbo.
Voilà. Et donc, les gars, confiance aux sélectionneurs. Le tournoi arrive. À la fin du tournoi, on comptera les bouses et on verra on peut faire quelque chose.
Les musiciens.
Tu vas dire, je fais une fixation, mais quand même, on se fait un peu des nos cerveaux sur la réinvention du jeu. Il y a quand même un élément fondamental qui participe à la construction de la stratégie.
Oui,
c'est Antoine Dupont. Et vous ne m'enlèverez pas de l'esprit, quand il y a Dupont, il a un style de jeu tellement unique
qui est atypique, que le jeu des Bleus est complètement différent. Dans sa façon de défendre, tu le dis, il défend au ras des mêlées. Ouais. Son jeu au pied, du gauche même, du gauche, il peut te gagner 70 mètres. Ça, il n'y a aucun neuf qui le fait. Et son leadership change tout dans le jeu.
Et dans le jeu, il n'est pas gauche.
Il est pas gauche dans le jeu. 16, Hervé, supporter de Bordeaux, bonjour.
Comment va, Hervé?
Ben, ça va bien, écoutez. On est content d'avoir Jalibert contre Pau demain soir. Je suis pas content. Hein, ça fait un pied de nez à toute l'organisation du 15 de France.
Pourquoi?
Allez. Parce que. Alors, moi, j'ai simplement dit que ce que vient de dire Adrien, c'est que ce chanceux de Fabien Galthié va récupérer Antoine Dupont, au mois de février. Voilà, parce que forcément, avec et sans Dupont, on voit bien quand même que c'est pas le même fonctionnement. On voit un Tamac qui, je suis désolé, sur les matchs internationaux ces derniers temps, même si c'est les matchs de reprise, est un peu quelconque, alors qu'avec Dupont à côté, il a tendance à être meilleur. Je trouve que Dupont va aider à magnifier les équipes qui sont autour. Bon, j'espère qu'on va retrouver un jeu d'attaque, parce que si on doit attendre le top 14 pour voir des attaquants, c'est quand même un peu dommage. Et ensuite, je voudrais simplement dire que vous avez gentiment dit que cet été, ça ne servait à rien. Là, vous êtes en train de dire que cet hiver, ça ne sert à rien. Moi, ce que je vois, c'est que les nations qui sont concurrentes, alors les Sud-Af, mis à part, parce que eux ont vraiment des certitudes. Attention, les Anglais, ils sont quand même sur 13 victoires consécutives.
Et
ils bâtissent. Les Irlandais, perdu contre les Blacks, mais ils sont là. Et j'espère qu'on ne va pas arriver au tournoi, ou après le tournoi, on va se dire, ouf, là, on a pris tellement de retard qu'on va avoir du mal à le rattraper.
Tu veux que je te dise, les Anglais, même pas peur. Je te le dis, pas peur, les Anglais.
George Ford
et compagnie, tu vas voir, parce que là, les Blacks, là, c'était un paquet de nouilles qu'ils avaient. Ouais, là. Il y en a plus qui foutaient un pied devant l'autre.
Le tournoi,
là, ils étaient morts.
Tu préfères George Ford ou Tommy Flute?
Tommy Flute.
Qu'est-ce qu'il est devenu?
Il a joué à Toulouse. Il était nul.
Tommy Flute, il a joué à Toulouse.
Pardon, il faisait des pipettes là-bas. Tommy Flute.
Pierre Laurent, est-ce que tu sais qui est Tommy Flute dans le Moscato Show?
Oui, j'ai bien compris.
Tommy Flode.
Tommy Flute. Mais non, mais lui, quoi, il a à Toulouse, il a encore capoté.
Mais c'est vrai que c'était un sous-produit de Owen Farrell.
Ça valait que là. Non, mais t'es pas mauvais. Mais pour les matchs de les célibataires, moyen.
Le problème, Vincent, c'est qu'il passait après Wilkinson. Donc c'était.
Eh oui, voilà, c'était surtout la doublure de Wilkinson.
C'était rude.
Puis après, il était épais comme un pique-feu.
Chaque fois qu'il s'engageait, t'avais un genou qui partait.
Tu finis le salon saut.
Je vais te dire que c'était attention fragile. Il fallait qu'il joue avec un maillot, il mettait attention fragile.
Il doit venir nous voir en janvier. Il l'a promis à Vincent.
Il viendra parce qu'il tient ses promesses à Vincent Moscato.
Ils se sont parlé et il a dit à Vincent, si c'est une cause nationale, je viens. C'est une cause nationale.
La France qui avait finalement battu l'Australie, ce qui est plutôt un bon signe, en tout cas une bonne fin de tournée, qui a été mitigée. On va repasser au foot dans un instant. C'est le Super Moscato Show. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aygouin, Pierre Dorian.
Le Super Moscato Show continue jusqu'à 18h sur RMC. Ensuite, place au foot avec Rotten sans flamme. Il y aura un Kikadi un peu particulier avant Rotten sans flamme.
Oui, tout le monde est un peu fatigué lors de ce Kikadi.
Ça peut arriver.
Tout le monde un peu cramé, ça arrive.
Mais tout de suite, la Coupe du Monde 2026 de foot et le Portugal. Cristiano Ronaldo, vous fait-il toujours rêver?
RMC, le Super Moscato Show.
Messi! À la télé ou sur les réseaux sociaux, ces sexagénaires racontent l'histoire de leur club de foot.
L'enfant que j'étais, c'est toujours là. J'ai toujours eu cet enfant-là. C'est celui-là qui m'a toujours dit des...
Aujourd'hui, ce sont 32 femmes qui ont rejoint le club.
Ils sont arrivés sur le tard, mais ils ont démarré tôt aussi.
Elles s'échappent des carcans de l'âge.
C'est épouser une autre peau, notre intérieur.
Et retrouvent une vie sociale.
On a un peu le café du commerce, non? Et Vincent est le patron du café.
Un parcours sportif qui les mènera en Afrique du Sud.
J'ai lu à Wolverhampton.
Pour la Coupe du Monde de football des grands-mères en avril prochain.
Et c'est Groucho Marx qui disait dans Cordon Vieillard, il y a un enfant qui se demande ce qui s'est passé. Breaking
news. C'est vrai tout ce que disait. Est-ce que c'est faux?
C'est pas faux.
C'est pas faux. Chez moi aussi. Donc hier, Cristiano Ronaldo a inscrit un doublé devenant seul meilleur buteur de l'histoire des qualifications en Coupe du Monde. Bon, la stat elle est anecdotique, c'est pas ça dont on va parler. Le Portugal est tout proche de la qualif, donc Cristiano devrait disputer à 41 ans sa 6e Coupe du Monde. Même sur le déclin, Cristiano Ronaldo vous fait-il toujours rêver? 32-16 et le hashtag RMC Live sur Twitter. Clément Brossard, bonjour.
Salut Pierre Brossard.
Alors pour ceux qui ne suivent pas au quotidien la sélection portugaise, dis-nous un peu quel est le rôle aujourd'hui de Cristiano Ronaldo en sélection.
Alors le rôle de leader, évidemment, c'est un leader technique. C'est lui qui continue de mener son équipe vers les victoires statistiquement. 8 buts sur les 8 derniers matchs pour Cristiano Ronaldo dans la Seleção, dont ce doublé hier qui permet au Portugal de prendre le point du nul. 143e but sur 225 sélections, c'est stratosphérique. Et puis Cristiano Ronaldo tient ce rôle de capitaine toujours. Son premier brassard, c'était il y a 18 ans déjà. Il apporte une aura particulière au moment d'entrer dans un vestiaire, sur la pelouse aussi, une expérience quasi inégalée et inégalable. Un certain guide qui a perdu dans son impact dans le jeu. Il s'est réaxé, devenu parfois un point de fixation, beaucoup moins cherché dans la profondeur, critiqué par les observateurs, critiqué par les fans aussi. Il reste une machine à marquer, oui, mais dans un collectif qui peine à séduire en sa présence. Le mettre sur le banc lors des grandes compétitions, eh bien, c'est s'exposer à rompre tout lien, et notamment Fernando Santos en a fait l'expérience, l'ancien sélectionneur. Roberto Martinez, lui, semble compter sur son capitaine, qui garde un rôle très important, c'est ce qu'il disait il n'y a pas très longtemps en conférence de presse. Et pourtant, eh bien, il y aura une volonté au sein de la sélection de s'émanciper de cette Ronaldo-dépendance. Anecdote de Maxime Chano, ça datait de 2023, et c'était dimanche dernier dans l'After Foot. Écoutez.
Quand on les a joués la dernière fois avec le Luxembourg, est-ce qu'on en a pris 9? J'en suis pas fier, mais c'est arrivé. À bout de 5 ou 6-0, je vais voir Diogo Jota en lui disant, s'il te plaît, calme-toi. Il m'a répondu, non, c'est le seul match en Cristiano, c'est à nous de montrer qu'on peut faire sans lui.
Mais voilà, le Portugal sans Ronaldo, ça sera certainement pas pour la prochaine Coupe du Monde.
Alors Vincent, est-ce qu'il te fait toujours rêver Cristiano?
Bah, il nous fait rêver parce qu'il a un impact qui est terrible. À 41 ans d'abord, la longévité, comme je te le disais tout à l'heure, ça fait rêver.
Ouais, déjà, ça fait rêver.
Un mec comme ça qui s'entretient, tu le vois, il est magnifique, c'est un athlète. Alors il manque peut-être un peu de vitesse maintenant parce que c'est multiplié la vitesse. Je suis sûr qu'il a encore sa vitesse, mais la multiplier à longueur de match, la récupération, elle doit être beaucoup plus dure. C'est pour ça qu'il est dans un championnat qui lui va très bien parce que bon, lui, le foot, il n'y a plus rien à apprendre.
C'est pour ça qu'il a changé de poste aussi.
Et puis c'est bien aussi, ouais. Il se met en appui, comme ils disent, c'est un joueur d'appui. Donc écoute-moi, lui, et puis en plus, il se passe un truc avec le Portugal. Il gueule, le Portugal, il se fait critiquer, mais s'il ne joue pas, ils ne sont pas bien. Les mecs, ils disent, non, il faudra un référendum. C'est le général de Gaulle du football au Portugal. Il faudra qu'il fasse un référendum pour se faire virer un jour ou l'autre. Mais ça marche. Il faudra demander l'avis au peuple portugais. C'est un mec admirable, c'est un des plus grands sportifs qu'on ait connu à travers les décennies. Même pour, ouais, un des plus grands, parce qu'on ne peut pas comparer un sport avec un autre, mais,
non, mais c'est un des plus grands. De l'histoire
du foot, ça c'est sûr, de l'histoire de tout comme du sport aussi. Et donc bravo Ronaldo, bravo pour tout, tu sais, j'ai envie de chialer.
Est-ce que tu es encore attiré par un match de Cristiano?
Je vais te dire, le Portugal, je ne le regarde que si à Ronaldo. Okay. Si à Ronaldo, je ne regarde pas le Portugal. Et donc quand il va arrêter, je ne regarderai plus le Portugal.
C'est fini.
Même s'ils sont en finale contre l'équipe de France, je ne les regarderai pas. Je regarderai que l'équipe de France. Non, mais quand ils auront le ballon, je tournerai la tête.
Tu vas le regarder d'autant plus qu'il va arrêter très vite.
Oui, c'est pas sûr ça. Hein.
Après la Coupe du Monde,
il a rien dit.
Tu l'auras la Coupe du Monde.
Après, le problème, c'est qu'il n'est pas con. Il va se voir dégringoler. Et non, il se supportera pas quand il dégringolera.
Le mot est périlleux.
15h17, première chute.
Au-delà de sa longévité dont parlait Vincent, moi, ce qui me bluffe, c'est qu'il est hermétique aux critiques, en fait, parce qu'il est très critiqué. Et à l'intérieur même de son vestiaire, tu vois, et de chez lui, au Portugal. Donc c'est le mec, il s'en fout. Il a un objectif, c'est le record. Il le dit, je veux battre Pelé, le record de Pelé qui est de 1000 buts. Il n'en est pas très loin, je crois. Tu l'as pas évoqué, mais je crois qu'il est pas loin de 900 et quelques.
En carrière totale, ouais.
Surtout que Pelé, c'est moins quantifiable précisément.
De le dire déjà, ça veut dire que le mec, il a un objectif. Il c'est un jusqu'au boutiste. Il va aller à fond. Puis oui, c'est un mec hors norme, quoi. On n'en reverra jamais, rarement des comme lui, quoi. Oh. Cet âge-là de me scorer encore. Moi, je veux bien qu'il soit critiqué, mais quand tu marques.
Tout le monde est critiquable. Qu'il soit critiqué, c'est pas grave.
Non, mais c'est ça qui est curieux, quand même. Quand je vois que ses partenaires le critiquent, on dit on joue mieux sans Ronaldo. C'est pas vrai.
Parce qu'on va voir des vieux. Parce qu'au bout d'un moment, on est pris. Parce que c'est normal. On se dit qu'après 35, 36, 37, le mec ne doit plus jouer, même si c'est le meilleur.
Mais c'est pas ça, c'est en termes de niveau. S'il s'appelle pas Cristiano,
avec ce niveau-là et les mêmes performances, bah, il est sur le banc.
Oui,
non, il est sur le banc.
Il est sur le banc, oui.
Oui, s'il s'appelle pas Cristiano, il y a mieux que lui.
Même, oui, voilà, alors, ça fait quand même depuis la dernière Coupe du Monde qu'il est quand même.
Oui, mais alors l'influence, Adrien, d'un leader.
Bah, ça, oui.
Tu faut le quantifier aussi.
C'est un équilibre à avoir.
Cécilia, est-ce qu'il te fait toujours rêver, Cristiano?
Évidemment, moi, c'est une légende, je vais clairement dans votre sens. Et ce qui me plaît encore, c'est son sourire. Il est pas blasé, il est blasé de rien. Il continue à sourire, il continue à.
Il fait des abdos avec du plaisir.
Ouais, il est un peu foufou, mais c'est vrai qu'il continue à vraiment à rassembler ses joueurs. Et quand on va suivre une Coupe du Monde, si le Portugal se qualifie, ils sont bien partis pour. Bah en fait, pour moi, une personne comme moi qui connaît pas tous les joueurs, qui connaît pas tous les titulaires, tous les remplaçants, et ben on a envie de pouvoir voir un match. On se dit bah ouais, il y a cette histoire, je la connais, c'est familier et ça fait du bien en fait de pouvoir suivre une Coupe du Monde comme ça. Donc oui, c'est une légende. On a besoin de lui. Et clairement, en termes de tactique, de technique, il sait quand même où se placer sur un terrain. On voit ses deux buts hier. Il sait où aller. Il sait où se mettre. Bah, ça quand même, ça demande du talent, ça.
Après, si vous me le permettez, la question est ce qui vous fait rêver. Moi, je pense qu'il a tout à fait sa place parce que de toute façon, comme tu l'as dit, Vincent, avec tes mots, les Portugais
c'est
le veulent.
Carrière qui nous fait rêver.
Le sélectionneur ne se voit pas, l'en empêcher. Et lui, bon, il est toujours motivé. Vraiment. Donc, sa place, il l'a. Maintenant, est-ce qu'il me fait rêver? C'est fini la période de Ronaldo qui écrase tout le monde.
Oui, non,
mais c'est-à-dire qu'il avait un truc, et particulièrement au Real, c'est que il était toujours là quand on l'attend. C'est-à-dire qu'il sortait des buts incroyables, parfois dans des situations qui étaient désespérées pour le Real. Il mettait des buts parfois hyper spectaculaires, parfois pas du tout, mais il était à la fin celui qui te faisait gagner. C'était ça qui était phénoménal dans son jeu. Et ben ça, il l'a plus.
Oui,
ça, excusez-moi, il l'a plus. Je suis pas sûr qu'il puisse l'avoir même au niveau d'une sélection. Et du coup, bah moi, le rêve, il est passé. Alors on l'aime beaucoup, on l'apprécie, il a sa place, pas de souci. Mais pour moi, le rêve et même parfois même, il m'a fait enrager à l'inverse quand c'était au détriment de mon club de cœur, le PSG, ou d'autres équipes que j'appréciais ou quoi que ce soit. Mais cette partie, comment dire, du personnage qui était inarrêtable et qui était au-dessus du jeu, elle n'existe plus.
Oui, ça, on le sait, Pierrot.
Donc, mais du coup, c'est pour ça que la partie rêve, pour moi, elle est passée.
Mais alors, moi, le rêve,
c'est. Il est dans une pré-retraite, là, pour moi.
Non, mais je vais dans ton sens. Pour moi, le rêve, c'est le. Il nous fait rêver parce que c'est la carrière qui nous fait rêver. C'est pas aujourd'hui le.
C'est ça.
Le rêve, il s'est déplacé à travers ce joueur. C'est plus le même rêve que l'on avait quand était hyper performant. C'était un rêve de longévité, un rêve d'exemple, un rêve de leader, un rêve de jouer à 41 ans encore là et de faire l'unanimité parmi les Portugais. Même s'il est critiqué, mais il a toujours été critiqué.
Vincent, il y a un problème.
Parce qu'il est arrogant, parce qu'il est flambeur.
Il peut y avoir un problème parce que le rêve
de Daricole.
Le rêve des Portugais, c'est un problème d'entraîneur. Mettez-vous à la place de Roberto Martinez. Le rêve des Portugais aujourd'hui, il est concret, c'est de devenir champion du monde. Oui. Ce qu'ils n'ont jamais été, ils ont l'équipe pour le devenir. C'est pas à chaque fois pareil. Tous les 4 ans, ils n'ont pas la chance d'avoir une telle équipe. Que va-t-il se passer si en pleine Coupe du Monde, il n'est pas bon?
Non, mais il est obligé.
Est-ce qu'il peut le sortir?
Non, mais il ne le sortira pas parce qu'il est obligé, l'entraîneur, de prendre. Je vais te le dire.
Mais s'il se dit, j'ai plus de chances de devenir champion du monde.
Mais il est obligé de prendre Ronaldo parce que s'il ne le prend pas, Ronaldo, il le vire et il prend ça
en cours de Coupe du Monde. Est-ce qu'il peut le sortir, Vincent?
Parce que le prochain entraîneur du Portugal. Mais non, il ne le sortira jamais. Mais il faudrait qu'il tue le président portugais de la fédération, tu vois. Donc écoute-moi, c'est au mieux encore, je sais pas s'il trouverait pas des circonstances. Il t'a bien fait, Ronaldo, c'était un con, on le savait depuis longtemps. Écoute-moi, lui, si l'entraîneur, tous les entraîneurs le font jouer, ils hésitent 2-3 minutes. Mais l'autre, il leur fait les gros yeux. Il lui dit, tu veux être entraîneur, toi? Mais fais-moi jouer parce que toi, je te dis.
On compte que là, il va disputer sa 6e Coupe du Monde.
Et peut-être qu'il va être champion du monde.
La première, c'était en 2006. Là, j'arrivais pas, je faisais le décompte, j'ai rencontré deux fois.
Ça serait encore plus dingue que Messi d'ailleurs s'il était champion du monde.
Ah ouais,
là il commence à vraiment être fatigué.
Est-ce qu'il passe devant Messi s'il est champion du monde?
On fera le débat.
À plus de 40 ans, ça va nous faire de jolis débats, c'est sûr.
Dans un instant, le Kikedi. Mais d'abord, le témoignage de Philippe Spanghero. Au nom du clan, c'est le nom de son livre.
RMC. Le cri du cœur du super Moscato Show.
Le talent est-il héréditaire, Vincent? C'est une des questions que pose Philippe Spanghero, fils de Guy, légende de Narbonne, neveu de Walter et de Claude Spanghero, dans son livre Au nom du clan. Philippe Spanghero est notre invité dans le super Moscato Show.
Oui, salut Philippe.
Salut
Philippe.
Bien, merci pour votre accueil, les amis.
Bon, ça nous fait plaisir de t'avoir.
Tu es entre amis, si tu connais bien Denis et Vincent.
Oui. Ouais, surtout. Donc on est toute la famille et Vincent a joué avec
Gilbert. Moi j'ai joué avec Gilbert, le dernier.
À Grenier.
Et Denis me disait t'es le moins moche de tous.
Première question, est-ce qu'il aurait été envisageable, possible, pour je ne sais quelle raison, que tu n'aimes pas le rugby?
Alors, en y pensant, finalement, j'ai pas senti de pression directement, mais ça fait partie des questions que je pose dans le livre, c'est quelle injonction on reçoit petit sans s'en rendre compte, et quelle voie on prend comme ça, de façon complètement inconsciente. Et avec le recul, non, je pense que c'était inconcevable de pas faire de rugby, parce que j'aurais eu l'impression de sortir du clan. Et en fait, j'en parle avec plusieurs témoignages, notamment les frères Karabatic, et Luca a vécu ça aussi dans la relation entre son père et son frère. Donc, c'est intéressant de réfléchir à ça pour savoir concrètement par quoi on est guidé.
Alors le livre, il se présente de la façon suivante, c'est plusieurs petites histoires de famille, pas uniquement dans le rugby et d'ailleurs pas uniquement dans le sport, parce qu'il y a par exemple il y a les Tabarly, les Karabatic, tu viens d'en parler, mais aussi les Tapis, les Galabru et d'autres histoires comme ça. À chaque fois, tu fais parler donc la deuxième génération, hein, ou alors tu parles de ce qu'ils t'ont raconté et de leur relation avec leur paternel. Toi-même, tu portes un nom qui conditionne ta vie. Spanghero, tout le monde sait qu'on parle rugby. Alors, on ne sait pas toujours de qui, de quoi, de quelle époque. Et, ouais. Combien de fois tu as entendu dans ta vie qui est ton père ou tu es le père de qui?
Je pense 5000 fois. Et en fait, c'est le titre du prologue. C'est que on m'a dit, avant de me dire bonjour, les gens me demandent t'es le fils de qui, parce qu'ils veulent me situer dans la famille, parce qu'il y a beaucoup de frères. Ils ont tous joué. On ne sait pas aujourd'hui avec les générations si je suis le petit-fils ou le fils ou le neveu.
Oui, parce que tu pourrais être le petit-fils de l'aîné de Laurent.
Ouais, largement.
Ouais, largement.
Et donc ça conditionne beaucoup. Finalement, la façon que tu as de te positionner dans une aventure familiale et de la place à trouver.
Mais tu dis que tu as pris conscience de cette importance-là plus tard.
Oui, plus tard, parce que en fait, si tu veux, c'était tellement naturel pour moi, petit, de répondre naturellement, je suis le fils de Guy, le neveu de Walter, etc., que finalement, j'ai trouvé ma place dans la famille. Et puis après, quand sportivement, tu fais le constat qui est un peu brutal de dire que t'es pas au niveau et que tu dois remettre en question la vie que t'avais rêvée, la question se pose de savoir quelle est ta place dans la famille. Et ce que je raconte, c'est que de façon complètement inconsciente, moi je me suis construit en me disant que si sportivement j'étais pas au niveau, j'arriverais pas à trouver ma place. Et donc ça amène des questions pour savoir comment faire pour s'épanouir malgré tout quand tu sais que t'as pas réussi aussi bien que là où la barre a été placée. Et puis moi j'ai eu le deuxième problème, c'est que mon frère est né à 10 ans de plus que moi. Il a quand même fait une belle carrière, Nicolas, très belle carrière. Nicolas. Et donc on me comparait à mes oncles, à mon père, et puis plus proche de moi, à mon frère.
Tout le monde. Voilà, donc, avant de parler des autres histoires du bouquet, est-ce que pour ceux qui connaissent moins bien le rugby, tu peux nous dresser en quelques mots l'arbre généalogique des Spanghero pour qu'on s'y retrouve justement?
Ouais, mes grands-parents sont arrivés d'Italie, immigrés italiens juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont eu 8 enfants, 6 frères, 6 garçons, 2 filles, et donc les 6 frères ont joué au rugby en première division tous.
C'est fou.
Ils ont été 4 à jouer en même temps à Narbonne pendant 2 saisons. Mon père, Walter, Jean-Marie et Claude, donc 4 frères sur le pack pendant 2 saisons, donc ça a marqué les esprits.
Tout être pénible quand t'es en face.
Voilà, et Walter qui a été quand même la légende de la famille, mystifié un peu par Roger Coudert à l'époque, qui était la voix du rugby parce qu'il y avait que 2 chaînes, donc même les gens qui aimaient pas beaucoup le rugby regardaient ça a été l'un des premiers joueurs de rugby à faire la une de Paris Match, des apparitions dans des films, et donc il y a eu tout un tas d'aventures là. Le Grand Chelem 68, il avait été exclu de l'équipe de France parce que ça avait été le premier joueur à prêter son nom à une marque de crampons. Ferras l'avait exclu pour ça. Et Pompidou, qui adorait mon oncle, avait imposé à Ferras de le reprendre juste avant le Grand Chelem 68.
Il avait dit ça, c'est la première génération. Voilà. Et juste ensuite, combien ont joué au rugby?
Tous, le fils de Gilbert, Cyril, en Fédéral 1, mon frère Nicolas, qui a fait une très belle carrière, et moi qui étais vaguement professionnel 2 ans, et après j'ai fini à Carcassonne.
Voilà. Il y a quand même un point commun dans toutes les histoires que tu racontes, il ressort que beaucoup des fils d'eux ou filles d'eux sont écrasés à un moment de leur vie par cette pression. Que ce soit Marie Tabarly en tant que navigatrice, la fille illégitime de Galabru en tant qu'actrice, chacun dans son domaine passe par ce moment-là.
Ouais, Luca Karabatic aussi par son père et par son frère. J'ai voulu montrer à quel point ça pouvait être dur, parce que cette question de loyauté, elle est exacerbée quand il y a un regard de l'extérieur et une attente que tu perçois. Mais en fait, en réalité, ce sujet de la loyauté familiale, on l'a tous. En fait, à des moments, on fait tous des choix de vie inconscients parce qu'on pense que c'est ce que nos parents attendent de nous. les études, le choix du conjoint.
Alors moi, je te rassure, c'est pas ce qu'il a fait mieux de moi. Et ça, et j'ai pas été content. J'ai pas été content.
T'es un cas un peu à part. Ouais, voilà.
Et la question, en fait, en fil rouge du livre, c'est de se dire à quel moment on conscientise tout ça et à quel moment on fait nos propres choix de vie et on s'émancipe à, sans trahir la loyauté.
Oui, mais ça, parce que t'as des bulbes. Et donc, c'est une psychanalyse que tu te fais. Et tu sais, à un moment donné, parce que t'as eu beaucoup d'exemples.
La réflexion.
Les six aînés, ton cousin, tout ça, tu sais où tu te situes. Mais pour quelqu'un de lambda qui prend tout ça, le frère d'eux qui joue au rugby mais qui n'y arrive pas, tout ça, celui-là, il le prend plein de pêche, il n'a pas cette analyse-là. Et c'est, ça peut être. On en a vu, on ne citera pas de nom,
mais
on en a vu. C'est toxique, et puis c'est des souffrances. Et puis des
soirs,
ça arrive quand même. Les frangins se fâchent. Les frangins se fâchent, ne se parlent plus.
Oui, oui.
Bah, bien sûr,
c'est ce qu'on appelle les fratries.
Cécilia.
La science commence à le prouver de plus en plus. On ne transmet pas simplement un patrimoine génétique, on peut transmettre aussi certains symptômes physiques, psychiques. Vous qui avez deux filles aussi, quel conseil vous pourriez donner aux parents pour éviter certains pièges quand on veut transmettre un peu un héritage, un patrimoine?
Bah déjà, la communication à outrance. En fait, moi, je me suis enfermé dans des croyances limitantes tout seul. J'ai rien à redire sur l'éducation que j'ai reçue. Mais moi, j'ai compris, je raconte dans le livre, parce qu'au départ, je voulais même pas parler de mon histoire. Moi, je voulais raconter l'histoire des autres. L'éditeur m'a dit, si tu racontes pas un peu ce que t'as vécu, ça manque de sens. Et donc, je raconte qu'à 9 ans, j'ai une image qui m'est restée en tête et je l'ai compris très tard. On va voir mon frère aîné à Cahors, première sélection en équipe de France à moins de 18 ans. Et au moment de la Marseillaise, je vois l'émotion de mon père et le regard qu'il porte sur mon frère. Et ce jour-là, je me dis, ben, si je veux ma place dans cette relation d'amour entre mon père et mon frère, si j'offre pas ça à mon père, j'aurai pas droit au même regard. Mmh. Et voilà. Et c'est ce que Luka Karabatic à 19 ans fait.
Alors, est-ce que tu penses qu'il aurait fait du tennis s'il n'y avait pas cette pression inconsciente
parce que Luka commence par le tennis à très haut niveau.
Ah oui, mais en fait l'histoire est super intéressante parce que c'est pour ça que je voulais montrer aussi la double loyauté qu'on peut avoir à nos parents et à nos frères, à nos aînés aussi quand on est les cadets de famille. Et Luka, il le raconte, il est happé par le tennis à 8 ans, il gagne les tournois, il devient le premier joueur français, meilleur joueur français, il fait les petits as, l'équivalent de championnat du monde à 14 ans. Il figure aux petits as, il a des contrats, il a des engagements.
Il est lancé quoi.
Ouais. Il est lancé et à 17 ans, il est toujours le meilleur joueur français. Mais en fait, il voit la relation de son père et son frère se construire à côté de lui et il n'ose pas se l'avouer, il est malheureux. Et sa mère comprend et lui dit, écoute, on ne te jugera jamais, les engagements que tu as à côté, ce n'est pas grave, fais ce que tu as envie de faire. Et à 19 ans, il plaque tout et il revient au centre de formation de Montpellier. 6 mois après, il joue en équipe 1.
C'est fou quand même.
Son frère est parti à Kiel en Allemagne et se dit, putain, mais je vais passer à côté d'un truc. Et donc, son frère quitte l'Allemagne pour rejoindre son petit frère.
Voilà. Et Marie Tabarly, à 7 ans, elle entend son père dire, après ma mort, c'est ma fille qui s'occupera de mes bateaux. Mmh. Elle a une passion pour les chevaux. Mmh. Et toute sa vie, elle passe des chevaux à la navigation. Ouais, et à la mer. Pour le coup, elle a pas fait le choix, entre guillemets.
Oui, mais là, t'as eu ton grand-père était de gauche.
Ça dépend lequel.
Mais tu es obligé d'être de gauche. T'as pris le mauvais côté du grand-père.
Juste, on va finir par un petit jeu, parce que c'est rigolo, les petits jeux. C'est Adrien qui va s'y coller. T'inquiète pas, c'est pas pour toi, Philippe.
C'est pour Vincent et Denis, mais vous répondez du tac au tac. On rigole souvent avec Eric Dimeco. Il se moque du rugby, Eric, parce que.
Mais il est où, Eric, là?
Il arrive. C'est un sport de fils de. On va trancher. Qui est le plus fort, Vincent? Qui est le plus fort entre Damien et Alain Penaud?
Attends, Damien, t'es con, alors.
Denis, tu peux l'aider,
Alain.
Alain,
sans aucune conviction.
Qui est le plus fort entre Émile et Romain Tamac?
Romain.
Émile.
Ah, vous n'êtes pas d'accord, mais c'est intéressant. Qui est le plus fort entre David et Hugo Radou?
David, on va changer un peu parce que
le seul avantage, c'est que normalement, si c'est sain, les parents sont heureux quand on cite les enfants.
Oui, mais dans la vie, parfois, on n'est pas sain.
Non, mais nous, on a joué avec. Donc, qui est plus fort après quand on les croise
Qui est plus fort entre Alexandre et Olivier Roumat?
Elle est dure.
La Roumagas.
Le père,
Alexandre.
Alexandre. Et alors là, c'est, je sais pas, qui est plus fort entre Jean-Claude et David Scrella?
La mère.
C'est
la mère. Philippe Bravandero, au nom du clan, aux éditions Alizio. C'est beaucoup d'histoires assez passionnantes. Merci beaucoup.
Merci.
Philippe,
merci.
Merci. Voilà. Au moins, on en a appris, sur le don supposé de son oncle qui transforme l'or, c'est sûr, en argent.
Alors, allez, le jeu en or, le Kikadi, tout de suite. Soyez bien présents parce que c'est un Kikadi, on va rire parce que tout le monde était complètement cramoisi.
Allez, à tout de suite.
RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Adrien Aiguin, Pierre Dorian.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 17h45. Top jingle.
RMC, le Kikadi
du Super Moscato
le
Show.
Le Kikadi. Quentin et Guillaume s'affrontent pour une enceinte radio Lexon. Tirage au sort, Eric Dimeco, le premier point. Qui sera son coéquipier?
Pourquoi il s'est trompé, il est cramé lui aussi.
Non mais il peut pas me donner un point. C'est pas possible, c'est plus fort que lui.
Il est cramé.
20-20, donc je joue pas avec 20-20 et
voilà. Et Denis.
Et Denis, donc le troisième c'est moi, donc Eric voilà. Et moi on joue ensemble.
Voilà. Eric Dimeco avec
je suis obligé
Pierre Dorian.
Pour Quentin qui va choisir son équipe, je donne une information. Vincent en quelques minutes est passé de l'état de carbonisé à l'état de coma artificiel.
Hein. Non, mais c'est vrai
qu'il n'est pas sur la bande passante.
Là, j'ai peur que ce soit le deuxième Kikadi. Alors, Quentin, tu choisis quel équipe?
Eh bien, Pierrot et Eric.
Très bien. D'accord. Face à Denis et El Carbonizado. La bouilloire. Hier, bubule, Vincent. Non, mais...
Allez, fais-nous mentir, Vincent.
Suzanne, aide-le.
8 minutes et 50 secondes dans ce Kikadi. Une éventuelle Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0 à la fin de ce match. Plein badingue. Kikadi, si on avait le nouveau stade, on aurait des retombées financières. Laurent Nicolin, dans Midi Libre, le président de Montpellier, qu'on connaît bien, désabusé.
Midi Libre, c'est moi là.
Un peu amer, puisque le projet de nouveau stade ne se fera pas à Montpellier. Ils vont rester à la Mosson. Et il dit que là, ça va être compliqué de se développer financièrement et de recruter des joueurs. Il est très honnête, Lolo Nicolas.
Les impôts, plus t'en prends, plus tu les dépenses. Donc c'est pareil, les clubs, plus ils ont de l'argent, plus ils les dépensent. Ça revient au même.
Non, mais Lolo Nicolas, c'est bien géré Montpellier pareil. Depuis 50 ans.
Vincent. C'est bien géré, mais Lolo. C'est bien.
Vas-y, on a 2-0 là. Vincent. Il explique qu'il se tue la santé.
Oui, mais les clubs comme ça, ils ont besoin de ça.
Laurent Nicolas, le patron de Montpellier, c'était dans Midi Libre. Excellent journal, Vincent.
Oui, super.
BFM TV.
Son propre Wilson.
Il a fait polémique, ou ses propos ont fait polémique ces dernières heures. Comment s'appelle
Souchon.
Le chef Marie. D'état-major des armées françaises?
Mandon.
Denis Charvet.
Merde, qu'est-ce que j'ai dit, Mandon.
Le chef.
Là, je suis fort.
Le chef d'état-major des armées françaises s'appelle Fabien Mandon. De Mandon. M-A-N-D-O-N, Vincent.
Qu'est-ce que t'avais dit, Vincent?
Morand, ouais, peut-être pas loin,
Mandon.
Mais il existe, Morand.
Il y a bien Morand qui existe. Morin,
question en un coup.
Morin, il y en a un qui a fait ses terres avec, comment il s'appelle?
Question en un coup. Gaël Ficou, la légende, va fêter samedi sa 98e sélection avec les Bleus face à l'Australie.
Oui.
Comment s'appelle le premier sélectionneur qu'il a convoqué?
Éliminé. Eh ben, Lièvremont,
éliminé.
Oh, alors, vous avez dit Laporte, Lièvremont.
Allez, c'est fini.
On a dit Laporte, Brunel et Lièvremont.
Laissez-le.
Bah, c'est facile, du coup.
Mais non, tais-toi.
Et Lièvremont.
Tais-toi.
D'accord.
Il a dit Lièvremont.
Non, il
réfléchit.
C'est son cerveau qui parle.
Attention. Et Lièvremont. Bon, allez, putain, qui me manque là?
C'est simple.
Non, mais arrête. Allez, c'est la musique. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans, c'est le 16 mars 2013. Le sélectionneur s'appelait Philippe Saint-André.
Ah, c'est Guy. Non, je croyais Guy Nouvès.
C'est pas Guy.
Philippe Saint-André.
Personne n'a le point.
Incroyable, là, les gars.
Et vous l'aviez, vous, du coup? Parce que vous l'avez, c'est facile.
Vous êtes des pompes. J'avoue, Eric, je pensais à Guy.
C'est Philippe Saint-André, le premier, qui a appelé Gaël Ficou à l'âge de 18 ans. Il a marqué un essai face à l'Angleterre, souvenez-vous, pendant le tournoi. Voilà.
Mais c'est beau quand même. Quelle carrière, quand même.
Quelle carrière, quand même.
31 ans, il a 5 sélections.
Ben oui. Qui a dit? Mon cœur fait encore des siennes. Les médecins vont voir ce qu'il faut faire.
Gourgue, non.
J'espère que le défibrillateur ne sera pas nécessaire. J'ai une confiance totale en l'équipe qui me soutient. Il a 58 ans. on peut le qualifier de star de son sport quand même. Il est beau, il est italien.
58 ans.
Sprinter.
Sprinter. Ah, Pietro Ménea.
Ciccolini. Oui,
Ciccolini.
Ouais,
mais il y en a qui soufflent mal aussi.
Il souffle mal. Mario Cipollini.
Ciccolini.
Il souffle mal. Qui a dit Ciccolini?
Mais non, c'est moi qui ai dit Ciccolini. Vous savez.
Mario Cipollini.
Ah, Cipollini.
Qui a de gros problèmes cardiaques.
Pierrot, il y a un problème.
Non, la tête de Fred qui a eu un soupçon de culpabilité dans les yeux.
Mais non, mais Cipollini.
Comment tu peux connaître Cipollini?
Je le connais. Des fois, il y a des mecs que tu connais que toi.
Mais Cipollini, on
connaît
quand même.
Tu connais pas, toi.
Non, mais on va penser maintenant. C'est votre génération.
Du jardin, c'était un ami, bon, tu le connais pas.
3 à 1, on a.
Ah ouais, c'est un ami, ouais. Il reste allez, 3 minutes 40. Dans vous soufflez les réponses à Vincent, essayez d'articuler.
Tu as failli dire la Cicciolina quand même. Cicciolina, un problème de poumon, go.
Question auditeur. Question auditeur.
Quentin et Guillaume.
Qui a dit? Comme jeune journaliste, je rêvais toujours de commenter les plus grands matchs de foot. Ma carrière a fait que cela ne s'est pas présenté tout de suite, mais je veux profiter à fond. Il a eu le droit, ce week-end, à une page entière dans l'équipe. On est très fiers parce que c'est un commentateur d'RMC.
Jean-Louis Tour.
Jean-Louis Tour. Qui a dit Jean-Louis Tour?
Quentin.
C'est pour nous.
C'est pour nous.
Non. Ah mais non, c'est un triche, il s'en va.
Jean-Louis Tour, il a une page dans l'équipe. Ouais. Il va prendre la grosse tête.
Ça, c'est même Vincent l'a jamais eu.
Qu'il la profite et qu'il prenne la photo. Quoi.
Ah bah, c'est encadré, c'est chez lui. Hein.
Ah, c'est chez lui.
Question en un coup.
Quand je pense que Jeannot, il a pas eu ça.
Allez, Vincent, essaye de trouver une réponse.
Jeannot, c'était les proches. Quand il faisait la publicité avec l'élastique pour la musculation.
Dimanche, qui arrive. Un seul coup. Dans quelle ville se trouvera Gabriel Bortoletto?
Las Vegas.
On va partir là-bas. Pierrot, on sait qu'il va nous le demander.
Pourquoi on le dit pas?
T'as vu les cannes?
On a été gentil.
Les cannes.
Trop gentil.
Les cannes.
Deux.
Mais tu sais quoi, Pierrot? On a pitié parce qu'ils sont nuls. Mais à l'arrivée,
ils sont pas nuls. Moi, j'ai trois réponses hier, deux aujourd'hui.
Toi, tu es pas mal. Mais
moi, deux hier et deux aujourd'hui.
C'est une belle pompe, ton
coéquipier.
Qui a dit?
Qui a dit? Je croise le président assez souvent et il ne me parle de rien.
Thibaut Giroud. Eh oui, Denis.
Il est en embrouille, le directeur de la porte de son bébé avec Laurent Marty sur sa prolongation.
Pierrot, 3.
Thibaut Giroud sur
le encore une, il chante.
Dans Sud-Ouest.
Oui, oui.
Tu veux pas chanter? Chante.
J'ai un mort vivant à côté de moi quand même.
4, 3.
C'est Walking Dead.
Non, mais il est. Ouais,
mais je suis déjà en match.
Question en un coup. Ah, il va voir le pari volé ce soir.
C'est moi qui donne le moi.
Super. Question en un coup. Tu nous raconteras. Un coup. Irlande-Afrique du Sud, c'est samedi à 18h40. Énorme match là. Irlande-Afrique du Sud. Comment s'appelle le capitaine de l'Irlande?
Sheehan,
non. Éliminé.
Ah merde, Vincent, je le sais.
Norris.
Alors attends.
Comment? Norris. Éliminé.
Mais non, c'est pas
attends,
lui.
Attends, qui c'est, qui ça peut être?
Il y a encore une question.
Non,
ressemblait à Norris.
Réponds plus,
une question.
Ce qui se passe, c'est incroyable.
On va dire Maurice.
Non,
je le sais, je peux répondre.
Mais qui ça peut être?
C'est comme ça.
Allez, vite. C'est comme ça, tu crois?
Mais oui, c'est sûr. Non, mais arrêtez.
Ah oui, ça y est, je sais qui c'est. Doris.
Mais c'est vraiment honteux. Non, mais ça nous fait rire, mais c'est honteux quoi.
Kylian Doris, le numéro
2. Même en trichant, ils sont nuls. Il est fou, Vincent.
Donc on reste
allez,
à 4, allez, 3,
vite. 40 secondes.
Allez, vite, Adrien. Doris, c'est incroyable.
Adrien, vas-y.
Samedi à 16h35.
Comment ça se fait que Doris il me vient à la fête?
Vas-y. Samedi là, à 16h35, dans quelle ville se trouvera Bernard Laporte?
Quatre réponses, trois réponses, quatre aujourd'hui.
Mais
oui, mais t'as toujours pas gagné là.
Je vais gagner là. Béziers parce que USAP Montpellier se joue à Béziers puisque le stade de l'USAP est suspendu. Alors, Bernard Laporte travaille à Montpellier.
Attends, je voudrais poser une question.
Et Fred dans les ordres, il me dit, t'es sûr qu'il est pas à Fresnes? T'es sûr qu'il est pas à Fresnes? C'est 4 fois.
Je voudrais poser une question.
J'ai pas envie de le dire.
À Vincent, sur la balle de match qui arrive, est-ce que tu rends le point?
Mais non!
Non, sur la balle de match qui arrive, là.
Mais voilà, c'est que les sourcils,
est-ce que tu rends le point d'avance?
Norris et Cicciolini, quoi. C'est vraiment une émission de
non, mais c'est pas possible qu'on ait de
17h59.
Moi, je préviens de suite, hein.
Si jamais c'est Vincent qui trouve la bonne réponse, je n'accepte pas.
Non, hein. Mais dis-le, ouais.
17h59.
Même, t'as vu, il y avait du pas mon rythme.
Allez, là, j'ai le verdict. Hein. La Golden Carotte qui remettrait le score à 0-0 n'est pas là.
Mais oui, mais il y a égalité.
Ce n'est pas facile de venir à Paris ici et de creuser un tel écart.
Il a creusé un tel écart.
Il a gagné hier à Paris.
Marchand.
30-27 à Paris hier soir.
Ah, Pandi.
Mais non, Fabregas.
Ah, c'est même.
Dick Hamel.
Quand tu chantes.
Et donc, on revient demain avec un nouveau Kikadi, avec de nouveaux débats, de nouveaux invités, des cris du cœur, des cris de gueule. C'est comme ça pendant les fêtes jusqu'à lundi.
Oh, à demain.
Allons-y.
À demain.
Retrouvez tout de suite le Super Moscato Show en podcast
sur rmc.fr et l'appli RMC.